Le colbertisme importait peu, exportait beaucoup. Les méthodes de Colbert pour développer l'économie française sont-elles vraiment nouvelles? Vous allez pouvoir en juger. Enfin aux commandes, Colbert, tout seul, ou presque. Il y a quand même au-dessus de lui Dieu, ou presque, Louis XIV, parce qu'on le lui a sans cesse seriné, se croit une sorte d'émanation de Dieu. Il n'est pas tout à fait homme, il a quelque chose en plus, un brin d'immatérialité divine. Donc, Louis Dieudonné nomme Jean-Baptiste Colbert, non pas Premier ministre, cette charge est supprimée, mais contrôleur général des finances. Progressivement, Colbert va cumuler tous les ministères. Finances, intérieur, marine, culture, commerce, justice, etc. Sauf le ministère de la guerre et des affaires étrangères, chasse gardée de Letellier et ensuite de son fils Louvois. Le roi ne va cesser de monter Colbert et Louvois l'un contre l'autre afin de les amener à se surpasser. L'un trouve de l'argent pour faire la guerre, l'autre fait la guerre. Trouver de l'argent, c'est le but unique, l'obsession de Colbert. Comment faire? C'est simple, et Colbert ne cesse de répéter son credo à qui veut l'entendre.
Il faut attirer l'argent du dehors et le conserver au-dedans.
Oui, mais de quelle façon s'y prendre?
Il faut le prendre aux États voisins.
Oui, monsieur Colbert, mais...
Il n'y a que le commerce seul et tout ce qui en dépend qui puisse produire ce grand effet.
Merci, monsieur Colbert. Allons, enrichissons-nous. Nous allons donc augmenter, à la limite du possible, les droits de douane afin de décourager les importations, donc la fuite de l'argent. Effet immédiat. La Hollande et l'Angleterre relèvent à la limite du supportable aussi leurs droits de douane sur les vins. Colbert est bien tranquille. Il écrit à son plénipotentiaire de La Haye en 1669 « On n'a jamais acheté tant de vins de France que ces années-ci. » C'est que, malgré les droits de douane, le vin français demeure excellent à l'étranger. Mais le vin ne fait pas tout. La puissance commerciale de la Hollande agace Colbert. Il lui réglera son compte plus tard. Pour l'instant, il faut poursuivre le plan qui vise à enrichir le pays. Puisqu'on n'importe plus, ou le moins possible, il faut donc fabriquer les produits manufacturés en France. Et qui dit produit manufacturé, dit manufacture. Mais dans une manufacture, il faut d'excellents fabricants, des ouvriers spécialisés. Où aller les chercher? Dans les pays voisins, en les convainquant de franchir le pas au moyen d'un pont d'or. Ainsi, à Abbeville, s'installe un certain Van Robay, originaire de Middelbourg, aux Pays-Bas. C'est le grand spécialiste du drap fin. Il a reçu un prêt de 80 000 livres et un don de 20 000 livres. De partout en Europe vont arriver des ouvriers réputés pour leur savoir-faire. Des Vénitiens qui coulent des glaces, des fondeurs de cuivre de Liège, des chapeliers d'Espagne, des brodeurs d'Italie, des fondeurs d'Allemagne. Attention, les ouvriers immigrés ne doivent sous aucun prétexte retourner dans le pays d'où ils viennent. Sous peine d'emprisonnement d'abord, puis sous peine de mort. Les manufactures ne poussent pas spontanément comme des champignons. Il faut les financer. Deux solutions pour atteindre cet objectif. Ou bien le roi puise dans ses caisses, auquel cas les manufactures sont déclarées manufactures d'État. C'est le cas pour la manufacture des gobelins, pour celle de la savonnerie, pour les ateliers militaires ou les manufactures d'armes comme celle de Saint-Étienne. Ou bien Colbert encourage les particuliers à créer des sociétés capitalistes, les compagnies. Il faut assurer aussi aux manufactures un monopole de fabrication. Sinon, il peut s'en installer n'importe où, qui se concurrenceront de façon sauvage. Les privilèges sont régionaux ou nationaux. Ainsi est accordé un privilège régional à une fabrique de miroirs dans le faubourg Saint-Antoine, puis un autre pour une fabrique de miroirs également à Tours-la-Ville, près de Cherbourg. La réunion de ces manufactures donnera naissance à la compagnie Saint-Gobain. Et la qualité des produits ? Elle doit être irréprochable. Des règlements précis sont créés. Et si le fabricant ne s'y conforme pas, si sa marchandise ne respecte pas la charte de production, il est lui-même exposé, un carcan autour du cou en place publique avec des échantillons de sa marchandise défectueuse. La qualité atteinte par ce que produisent les manufactures françaises est bientôt telle que les ambassadeurs reconnaissent que, de partout, on demande des marchandises de France, ce qui, observe-t-il encore, se fait au grand dommage des pays voisins, contraints de la sorte d'envoyer beaucoup d'argent en France. Colbert peut se frotter les mains. Continuons de suivre Colbert dans son parcours. Il faut non seulement développer les manufactures, mais tenter de concurrencer les Hollandais et les Anglais sur mer. Créons et subventionnons de grandes compagnies commerciales, se dit Colbert en 1664. Commerce avec la Baltique, les Indes orientales, etc. Pour cela, faisons appel aux capitaux des particuliers en leur faisant miroiter de substantiels bénéfices par le système des actions. Hélas, les compagnies sont un échec dès 1669. Les Français préfèrent dépenser leur argent en l'engloutissant dans le rachat de terres plutôt que de le faire naviguer sur des bateaux incertains. Pourtant, la puissance maritime va se développer de façon spectaculaire. Dans le port de La Rochelle, par exemple, le nombre de navires en construction est multiplié par 4. Et comment fait-on pour fournir à ces vaisseaux le nombre de rameurs nécessaires ? Tout délit, ordonne Colbert, devra désormais être sanctionné par la peine des galères, même ceux qui, à cette époque, étaient punis de mort. Autre direction de la politique économique de Colbert, les colonies. Le Canada, en particulier, il faut le peupler. Ainsi, la Pitié, annexe de l'hôpital général de Paris, paroisse de Saint-Sulpice, se vide régulièrement d'importants contingents d'orphelines, de Paris, Normandie, Bretagne, d'Île-de-France, devenues jeunes filles à marier. Des jeunes gens ayant déjà émigré. Les mariages doivent être précoces et ils sont obligatoires. Si un jeune homme n'est pas marié à 20 ans, une jeune fille à 16 ans, les parents ou les célibataires paient une forte amende. Et ces mariages doivent peupler la colonie. Une somme de 300 livres est allouée à tout ménage ayant 10 enfants au moins. Colbert, créateur des allocations familiales. Quel homme, ce Colbert ! Quelle imagination, quelle énergie ! Que dit-on de lui à l'époque ? On le surnomme l'homme de marbre, tant il reçoit ses visiteurs avec froideur, sans bouger le sourcil, sans sourire, sans manifester quelque signe qui traduirait sa pensée. Pour la marquise de Sévigné, Colbert n'est qu'un grand glaçon qu'elle appelle le Nord. Il se lève très tôt, se couche très tard, ne cesse de travailler, comme les écrivains qui ont accepté, sans vraiment réfléchir, une date de remise du manuscrit qui ne leur laisse pas le temps de souffler. Colbert souffre, comme beaucoup à cette époque, de crises de goutte et de gravelle. La gravelle, ou maladie de la pierre, ce sont les calculs rénaux, en général des oxalates de calcium qui obstruent les reins et occasionnent d'insupportables souffrances. Colbert en mourra en 1683. Ses rapports avec Louis XIV avait pour thème principal l'argent qu'il fallait faire rentrer dans les caisses. Louis XIV, avec son Versailles, ses maîtresses, ses nobles à pensionner et ses guerres, dépense sans compter. Et Colbert, sou par sou, veille à comprimer des dépenses qu'il estime exorbitantes. Les reproches au fil des années se font plus insistants, au point qu'un jour, Colbert se fâche, demandant au roi un peu de bon sens. Louis Dieudonné le prend de haut et lui répond, méprisant, qu'il regrette de l'avoir comblé de tant de bienfaits. Il se plaint ensuite que Versailles coûte trop cher. Il en rend Colbert coupable et lui dit, c'est le coup de grâce, que Louis voit à sa place, aurait sûrement fait mieux. Ce reproche atteint Colbert au-delà du supportable. Il a 64 ans, il est usé par le travail, il est amer. Il en veut à ce roi, à l'intelligence robuste. Il s'alite, souffre et meurt le 6 septembre 1683.